vous êtes à l'écoute de votre station numérique par excellence, fideleauposte.com. Et voici maintenant votre émission Voyage Voyage en compagnie de votre animateur André Bouchard. Bienvenue, chers auditeurs et auditeurs, ici André Bouchard qui vous accueille une fois de plus sur les ondes de votre station numérique par excellence fideleauposte.com en compagnie de votre animateur André Bouchard pour votre émission Voyage Voyage. Et voici les sujets qui nous a fait plaisir de sélectionner pour aujourd'hui en espérant que vous saurez les apprécier. Eh bien, d'abord, à la Maison des Autochtones de Mont-Saint-Hilaire avec Audrey Renaud, puis les nouveautés du Musée d'histoire de Sherbrooke avec David Lacoste, également les cantons de l'Est en cette période de l'année avec Chani Allé qui va nous entretenir également du temps des sucres, et nous compléterons avec un beau voyage sportif, plus précisément au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières alors que s'affrontaient les anciens Nordiques contre les anciens Canadiens. Et pour la circonstance, nous aurons les réactions de l'ancien instructeur Le Tigre, Michel Bergeron, ainsi que l'un de ses joueurs bien connu à l'époque, Stephen Flynn. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite bonne écoute, chers auditrices et auditeurs, sur les ondes de votre station préférée fideleauposte.com pour votre émission Voyage, Voyage. Thank you. spéciale à la Maison des peuples autochtones de Mont-Saint-Hilaire, en compagnie d'Audrey Renaud, qui est en fait la porte-parole du service récréatif et qui va nous donner un peu de quoi il s'agit, de cette belle organisation qui date bientôt de 25 ans et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, Audrey Renaud.
Oui, M. Bouchard.
Audrey, quand on parle de maison autochtone, d'abord, c'est quoi la vocation?
La maison autochtone, c'est un lieu d'échange, de partage et de rapprochement entre les peuples. Notre mission est de mieux faire connaître les Premières Nations, puis on fait ça sous trois volets. On a un volet muséal avec nos expositions et nos activités. Un volet gastronomique avec le café Le Michetane qui propose un menu dégustation à tous les jours. Et un volet environnemental grâce au sentier de l'Érablière dans lequel on est situé. Donc, c'est vraiment un musée multination, un musée autochtone qui est situé hors communauté, donc à Mont-Saint-Hilaire.
Et il s'est passé beaucoup de choses depuis ces 20 ans. Et ça a été fondé par qui, soit dit en passant?
Ça a été fondé par un artiste nommé André Michel. Donc, c'est un artiste qui est établi sur le territoire depuis les années 70 et qui donc vit de son art, un artiste peintre, mais qui avait à cœur de mieux faire connaître les Premières Nations à une époque où on en parlait très peu.
Et ça a évolué beaucoup depuis ces 24 ans-là, j'imagine.
Oui, bien sûr. La Maison autochtone, c'est un organisme donc qui est géré par un conseil d'administration 100% autochtone et qui a toutes sortes d'expositions et d'activités. Donc, notamment en ce moment, on a une magnifique exposition qui s'appelle « Hommage à Riopel ». Donc, « Hommage à Riopel », Jean-Paul Riopel, dont on célèbre le 100e anniversaire de naissance. C'est une exposition de l'artiste Tim Wiskachan de la Première Nation Cree de Waskaganish, donc ici au Québec. Et c'est vraiment un artiste qui rend un hommage au territoire et à l'homme qui était Jean-Paul Riopel, de par son art avec pochoir, peinture aérographe et tout ça. Donc, vraiment une magnifique exposition haute en couleur.
Jusqu'à quelle date cette exposition est présentée?
L'exposition temporaire est présentée jusqu'au 28 avril. Par contre, quand vous passez nous voir, vous pouvez également visiter le Salon Riopel, qui est un espace permanent dédié à Jean-Paul Riopel et à son lien privilégié avec les peuples des Premières Nations, et l'exposition permanente de l'eau à la bouche, qui parle de la façon traditionnelle de faire le sirop d'érable avant l'arrivée des premiers Européens sur le territoire.
Mm-hmm. Et on est en pleine période de printanière. Alors, qu'est-ce qui va se passer également à votre maison?
Alors, pour la semaine de relâche qui s'en vient, donc on parle vraiment là, de la semaine donc du 2 au 10 mars prochain, on a pour les jeunes, on a un magnifique camp de jour sur la piste des Autochtones où les enfants de 6 à 12 ans vont explorer la roue des saisons avec toutes sortes d'activités artistiques, éducatives et ludiques. Mais pour les familles qui voudraient venir nous visiter, on a une magnifique programmation pour la semaine de relâche, que ce soit des contes autour du feu, un atelier créatif là, de peindre à la manière de Témiscouchan ou de Jean-Paul Riopel. On a des circuits nature sur les sentiers de l'Érablière en extérieur. On a des visites guidées animées des expositions, des visites libres et le café Le Michetane qui est accessible également.
Donc, vous attachez beaucoup d'importance à cette semaine de relâche pour nos étudiants et les familles.
Oui, bien sûr, parce que c'est un moment où on peut se déposer, prendre le temps. Hein, des fois, on va vite, on prend pas le temps. Donc, on invite les gens à venir se déposer au musée, passer une belle demi-journée, une belle journée. Il fait beau habituellement la semaine de relâche. On a des grandes fenêtres. Le café Le Michetane est lumineux. Les sentiers de l'Érablière sont accessibles. Donc, c'est vraiment un moment pour prendre le temps ensemble et se reposer là, pendant cette semaine de relâche-là, parce que Dieu sait qu'on en a besoin.
Et cette activité-là est présentée à quel moment? Est-ce que ça prend des rendez-vous?
Cette programmation-là se retrouve sur notre site Internet. Donc, vous avez des dates et un horaire, naturellement, pour chacune des activités. Donc, autant j'ai des comptes autour du feu les samedis, les mardis, le jeudi. L'atelier créatif a d'autres dates également. Des fois, il y a dans la même journée. Vous pouvez combiner des activités. Donc, il y a vraiment une belle programmation familiale en plus de mon camp de jour et des visites libres là, que vous pouvez faire tout au long de la semaine.
Donc, c'est une belle initiative dans les circonstances.
Oui.
Alors, si on parle de maintenant, on sait que le temps... on va s'arrêter quelques instants, si vous me permettez, Audrey. On revient après la pause qui suit.
Parfait.
el bongo. Y aunque tú no me lo creas, esto sí tiene swing.
Cette entrevue en compagnie d'Audrey Renaud, responsable des services éducatifs à la Maison des peuples autochtones. Alors, Audrey, je sais que vous avez toujours des activités plein la tête et en cette période printanière, entre autres, vous avez le temps de temps des érables et des sucres qui est très important pour vous autres. Est-ce que c'est vrai?
Oui, bien sûr. Vous savez, chez les peuples autochtones, autrefois, on divisait notre année en fonction des activités à faire sur le territoire. Donc, que ce soit tout était fait en respect de la nature, de l'environnement. Les modes de vie étaient vraiment ancrés dans le territoire où on y habite. Et le temps des sucres, ben, ça fait partie de cette tradition ancestrale autochtone. Donc, naturellement, toute l'année, on peut découvrir cette importance de l'érable grâce à notre exposition permanente. Mais pendant la période des sucres, on a vraiment une programmation d'activités en levante là, pour tous.
Donc, parlez-nous-en donc quelque peu, oui.
Oui, toutes les fins de semaine, on a les soirées thématiques avec des repas à saveur autochtone. Donc, on a là, 4 samedis avec des repas qui sont offerts. Ensuite, vous avez dans la journée, donc pour ceux qui voudraient vraiment seulement venir passer une après-midi au musée, vous avez à 14h, les samedis et dimanches, l'animation Cinomosie. Cénomosie, c'est un mot abénaki qui signifie érable. Mm-hmm. Et c'est vraiment une animation où on fait découvrir les gens, mm-hmm. les contes, les légendes et toutes les façons traditionnelles qu'on avait autrefois avant l'arrivée européenne de faire bouillir de l'eau d'érable et toute l'importance liée à cette tradition-là.
Alors, c'est un point fort, ça, chez vous, le côté...
Oui, c'est sûr, ça fait partie de notre mission, parce qu'ici, la Maison autochtone, c'est le seul lieu au Canada qui est reconnu par la Commission des lieux et monuments historiques pour l'origine de la sériculture et des produits de l'érable. Donc, pour nous, c'est une fierté que de parler de ces produits mm-hmm. d'érable et de cette tradition, et de partager les savoirs et savoir-faire autochtones liés à cette tradition ancestrale.
Est-ce qu'il y a d'autres activités afférentes au printemps?
On a le circuit nature Sigon le temps des sucres, qui est un circuit sur les sentiers où les familles peuvent partir munies d'un petit carnet d'exploration et on fait le tour des sentiers et on en apprend plus sur l'origine du temps des sucres. Mais sinon, ce n'est pas tout à fait en lien avec les sucres, mais ça se passe pendant le temps des sucres. On a notre fameuse chasse aux cocos plumés qui a lieu le vendredi et le samedi de la fin de semaine de Pâques.
Alors c'est quoi ça?
C'est une magnifique chasse d'indices. Donc, pour ceux qui ont un petit goût sucré et qui auraient envie d'un peu de chocolat, on a pour les enfants une belle chasse au coco. Donc, ce n'est pas une chasse où tout le monde part en forêt essayer de trouver des chocolats. C'est vraiment une chasse d'indices à la découverte des savoirs et savoir-faire autochtones qui se termine par un chocolat. Donc, vous avez un circuit pour les plus jeunes, un circuit pour les plus vieux, adapté à la météo, ça se passe sur les sentiers en extérieur, mais également adapté aux connaissances et aux habiletés de chacun là, des niveaux, des groupes d'âge qu'on peut avoir.
Je sais que vous avez des spectacles également. Alors, qu'est-ce qu'il y en a à ce sujet-là?
Oui, notre prochain spectacle, pour l'instant, on y va avec le solstice d'été, mais c'est beaucoup plus tard, au mois de juin. D'ici là, j'ai d'autres activités qui vont venir. J'ai des conférences, j'ai des expéditions en forêt. J'ai vraiment là, toutes sortes de belles activités, des ateliers créatifs également qui vont arriver. Sinon, mon prochain spectacle est vraiment le 21 juin pour la Journée nationale des peuples autochtones avec le solstice d'été.
Ah, c'est toujours un événement important, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Et concernant le cassoulet, rapidement, je sais que vous êtes très connu pour ce côté-là.
Oui, notre côté gastronomique, le cassoulet, c'est à l'automne. Ce qu'on a au printemps, c'est le festin de crabe ou à la stockier Kwashipekuk. Ça, c'est une activité de levée de fonds. C'est le festin de crabe qui est en collaboration avec la Première Nation ou à la stockier Kwashipekuk, qu'on connaissait autrefois sous le nom de Malécite de Vigée. Et ça, ça a lieu le 27 avril prochain. Donc, vraiment un bel événement de levée de fonds là, qui vient terminer le temps des sucres, mais qui, pour nous, marque l'arrivée du printemps également.
Alors, ça promet beaucoup. Vous avez une invitation à faire à nos internautes ou auditeurs de radio pour les convaincre, justement, à assister ou à vos activités ou à participer. Qu'est-ce que vous diriez?
Bien, je lance l'invitation à tout le monde de venir à notre rencontre les fins de semaine du temps des sucres ou encore pendant la semaine de relâche. Parce que au Québec, on le sait, la cabane à sucre, c'est quelque chose qui est bien ancré dans la culture québécoise. Mais un grand nombre de gens ne savent pas nécessairement d'où vient cette tradition-là. Mm-hmm. Donc, ce serait le temps, ce printemps, d'aller un petit peu plus loin et d'aller à la rencontre des peuples autochtones pour découvrir l'importance liée à cette tradition-là, qui est bien plus que simplement la dégustation d'un bon petit produit d'érable sucré, mais qui est vraiment liée à la survie des peuples autochtones d'autrefois. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer pour la semaine de relâche, pour les fins de semaine de l'érable, voir notre magnifique exposition « Hommage à Riopelle » de Témiscouchan également. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Donc, Colis Payot, bienvenue à la Maison autochtone. On vous attend là, très nombreux.
Et pour plus d'informations, Audrey, qu'est-ce qu'on doit faire?
Vous pouvez nous contacter soit par téléphone au 450-464-2500 ou bien encore aller voir notre site Internet, donc www.maisonautochtone.com et ça va nous faire plaisir là, de répondre à toutes vos questions et de vous accueillir.
Alors, Audrey Renaud, responsable du service éducatif à la Maison des peuples autochtones de Mont-Saint-Hilaire, merci pour tous ces renseignements et on vous dit à la prochaine.
À la prochaine. Merci beaucoup, Miigwech, M. Bouchard.
Au revoir.
Au revoir.
une belle visite à Sherbrooke, plus précisément au Musée d'histoire de Sherbrooke, en compagnie de David Lacasse, qui est en fait le directeur général et qui a bien voulu nous accorder cette entrevue. Alors, bonjour David Lacoste.
Bonjour, M. Bouchard.
M. Lacoste, quand on parle d'abord rapidement là, pour nos auditeurs qui sont moins familiers, les objectifs de votre musée.
Le Musée d'histoire de Sherbrooke, en fait, on a un triple objectif, c'est-à-dire conservation, diffusion et recherche. Donc, bien évidemment, on est davantage connu pour la conservation, oui, donc à peu près 1 million de photos dans la collection, 3 500 objets archives textuelles. Et ensuite, pour les expositions, donc on présente 3 à 4 expositions temporaires, plus une exposition permanente et des animations dans les rues de la ville.
Donc, les activités ne manquent pas et je sais que j'avais beaucoup de projets et 2 expositions importantes qui s'en viennent prochainement.
Oui, au mois de février, on inaugure 2 expositions. En fait, on inaugure 2 expositions au mois de février, la première étant une exposition qui s'appelle « Sans réserve ». Donc, on a décidé de sortir les objets de nos réserves, donc ça se dit, et on sort sans objets. On en a 3 500 dans la collection, mais on a pris un petit échantillon des objets artefacts qui, souvent, on a de la misère à mettre dans d'autres expositions, donc des thématiques qui des fois sont moins porteuses ou du moins qui ne sont pas dans des grandes thématiques. Mm-hmm. Je pense à un sauna portatif. On a de la misère à le mettre en valeur dans une expo d'hiver ou une exposition là, comme on a eu ces dernières années. Donc, on sort une centaine d'objets, petits et gros, et on les met en valeur. Donc, souvent, dans nos expositions, il y a des objets, bien évidemment, des objets historiques. Par contre, les objets viennent compléter les photos, les textes, la thématique principale. Là, la thématique, c'est les objets en eux-mêmes. Mm-hmm. Donc, on a une centaine d'objets qui viennent raconter à leur façon un bout de l'histoire de Sherbrooke.
Une belle initiative, en effet. Vous avez une deuxième également qui est en marche bientôt.
Oui, on lance également l'exposition « Identité, racines et mélanine », qui est une exposition qui est faite dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Donc, on a une artiste photographe qui a pris 24 portraits des membres de la communauté noire actuelle, avec une phrase là, de chacun d'eux où ils viennent interpréter ou dire comment ils sentent la relation entre leur couleur de leur peau et la communauté. Donc c'est une exposition, je veux dire, contemporaine, parce qu'on est dans les photographies. Par contre, bon, c'est le mois de l'histoire des Noirs, oui, mais ça permet de faire cette historique-là, ou en tout cas de constater cette historique-là de l'évolution du vivre ensemble.
Mm-hmm. Et voilà que pour la semaine de relâche, vous êtes également très actif.
Pour la semaine de relâche, bien sûr, on profite justement des expositions en cours, notamment l'exposition sans réserve, pour mettre la conservation au centre de nos activités de la semaine de relâche. Donc, il y aura une soirée au musée dans le noir, donc avec pour les enfants qui arrivent ici avec lampe de poche et une espèce de course à indices à l'intérieur de l'édifice, donc, dans les expositions, dans les archives, donc sur les différents étages. Et d'autre part, bon, on va également faire une espèce de petite séance introduction à l'archivistique où les enfants vont pouvoir manipuler photos, objets, livres un petit peu plus vieux et journaux. Et on a une troisième activité qui est davantage axée sur le bricolage, mais aussi le sens de l'observation là, à travers les expositions.
Alors, c'est très intéressant. Avant de terminer, on n'ira pas du côté estival immédiatement, mais comment ça s'est déroulé, les récentes expositions?
Ça va très bien. Notre musée, nous, est en croissance, là, si on peut se dire. On a de plus en plus de visiteurs et c'est bien. On en est bien heureux.
Tant mieux,
donc, on a des thématiques qui sont grand public. On a des activités ciblées pour les enfants, les familles. Donc, on couvre un peu plus large. Ces derniers mois, bon, on a eu l'Expo de Noël, bien évidemment, qui est toujours un grand succès, y compris les groupes scolaires, mais y compris le grand public. L'été passé aussi, ça a été un bon succès, malgré toutes sortes de choses et la météo, surtout, qui n'était pas favorable aux activités extérieures. Donc, les gens viennent voir à l'intérieur, et tant mieux. Donc, on en a profité un peu. On espère que l'année prochaine, ben, comme citoyen, on espère qu'il fasse beau. Comme musée, on espère que, même s'il fait beau, que les gens viennent au musée.
David, vous aviez une invitation à faire à nos internautes, aux auditeurs de radio, pour les inviter, justement, à visiter votre beau musée. Qu'est-ce que vous diriez?
Bien, justement, on offre des expositions variées. Bon, là, vous l'avez avec l'exposition Identité, Racine et Mélanine, une exposition qui est très contemporaine, une exposition plus ancienne avec Sans réserve où on a des objets du dernier siècle et même plus. Et bien sûr, l'exposition permanente sur l'histoire de Sherbrooke de façon plus large, là, l'exposition qui s'appelle Mémoire sherbrookoise. Donc, il y en a pour tous les goûts et souvent interactif, là, dans le sens où c'est pas nécessairement des tablettes et des trucs électroniques, mais on pousse le regard et l'interaction à travers les objets ou à travers un cherche-trouve, un objet par participer les gens à travers nos expositions. C'est pas que des... Moi, ce que je dis souvent, ce qu'on présente n'est pas ce qu'on trouve plate dans l'histoire, que des dates et des noms. Donc, on est dans la réflexion sociale aussi à travers les objets, les photos et l'ensemble de l'histoire.
Très intéressant. Et pour plus d'informations, M. Lacoste, qu'est-ce qu'on doit faire?
Bien, je vous invite à aller sur notre site Internet www.mhist.org.
Alors, M. Lacoste, directeur général du Musée d'histoire de Sherbrooke, merci de cette entrevue et on vous dit à la prochaine.
Merci à vous. À la prochaine.
Frase que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡ala! ¡A lo loco!
Bien maintenant, une visite dans la belle région des Cantons de l'Est, en compagnie de Chani Ali, qui est la coordonnatrice des relations avec les médias et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour, Chani Ali.
Bonjour, André.
Chani, quand on parle des Cantons de l'Est, là, pour situer nos auditeurs, internautes et auditeurs de radio, à quelle place est située d'abord?
Alors, les cantons de l'Est, c'est une magnifique région qui est située au sud du Québec. On est sur la frontière avec les États-Unis, située à environ 1 heure de Montréal et 2 heures de Québec. Donc, ça commence dans le coin de Farnham et ça va jusqu'à l'autre côté de lac Mégantic. Donc, on a une belle grande région à découvrir. Et en ce moment, c'est l'hiver. C'est vraiment un super terrain de jeu qui est les cantons de l'Est. Donc, on a des centaines de kilomètres de pistes de ski de fond, des sentiers de raquettes, de fat bike, de glissade, de patins. C'est certain qu'il faut que Dame Nature soit collaborative. C'est pas toujours facile cet hiver, mais on a toutes sortes d'activités. Et si jamais le plein air, c'est pas possible en raison de la météo, bien, on a justement toutes sortes d'activités qui se déroulent aussi à l'intérieur.
Est-ce qu'on peut dire que la région des Cantons de l'Est est une région très courue?
Oui, absolument. C'est vraiment une région qui est très populaire auprès des Québécois. On a aussi une belle clientèle là, qui vient d'ailleurs. Là, je pense notamment au nord-est des États-Unis, à l'Ontario aussi, là, qui sont des États qui nous visitent beaucoup. Donc, on s'en réjouit puis on espère rester en tête là, pour eux, justement, pour qu'ils reviennent à l'été prochain pour nous faire une petite visite.
Parce que la situation géographique est très intéressante pour les cantons de l'Est, si j'ai bien compris.
Oui, vraiment, on a une super situation géographique, dans le sens qu'on est proche des grands centres, proche des États-Unis aussi. On peut, en quelque sorte, se positionner comme la porte d'entrée là, du nord-est des États-Unis. Donc, c'est une situation qui est avantageuse pour la région.
On est en pleine période hivernale et bientôt au printemps. Alors, en cette période de l'année, là, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant là, pour le moment?
Oui, bien, je peux commencer à vous parler du temps des sucres.
Oui, c'est un sujet important pour vous autres à ce moment-ci.
Bien oui, absolument. Puis on a des cabanes à sucre dans les cantons de l'Est qui sortent de l'ordinaire.
Parlez-nous-en donc quelque peu, oui, c'est intéressant.
Oui, bien c'est ça, il y en a, justement, on peut parler de la cabane comme à la maison. Il y a une salle à manger chaleureuse, on peut accueillir 15 à 20 personnes de la fois. Vous allez vraiment avoir l'impression d'être chez la parenté. Sinon, vous pouvez aller dans la cabane du Pic-Bois. Celle-là, c'est dans la région de Promiscouat, près de Brigham. Donc, c'est vraiment sur un site enchanteur. Il y a 1100 entailles. On transforme le sirop d'érable. On fait toutes sortes de produits sucrés, justement, là-bas. Donc, la cabane du Pic-Bois, c'est un bon endroit pour aller se sucrer le bec. Les rabilières Garou, les rabilières Chalet des érables. On peut penser ou sinon au vignoble du Ruisseau, parce que là-bas, oui, on fait du vin, mais on fait aussi du sirop d'érable. Et je vous inviterai à, si vous y allez, là, goûter aux bulles à l'érable. C'est vraiment un super produit. C'est comme une espèce de petit vin pétillant à l'érable, mais c'est pas trop sucré, c'est vraiment très bon. Sinon, vous pouvez aussi aller manger un repas dans des sucres au manoir Rosé. Donc, vous savez, ce relais château qu'on a dans la région, qui est vraiment magnifique et la nourriture qui est délicieuse, donc vous pouvez aller de ce côté-là. Érablière du village à Compton, l'érablière Bernard à Grimbé. Et bon, j'en passe, il y a vraiment toutes sortes d'endroits où vous pouvez vous rendre pour manger un bon menu de la cabane.
Est-ce qu'on peut dire que c'est ouverte, la plupart des cabanes sont ouvertes à l'heure actuelle, Chani?
C'est difficile à dire, j'ai pas exactement les...
Mais
c'est
parce qu'il y en a plusieurs qui commencent à la mi-février, hein?
Oui, c'est ça, ça commence. Puis ce qui est intéressant aussi, André, c'est si jamais vous pouvez pas vous déplacer dans la cabane à sucre pour aller manger sur place, mais il y a aussi des cabanes qui vont faire des menus pour emporter.
Ah oui.
Donc, c'est une belle façon là, d'emporter un peu de la cabane à la maison. Donc, un repas traditionnel de cabane à sucre que vous pouvez avoir chez vous. Donc, je pense à l'érablière Bernard là, qui offre ce service-là. Il y a la cabane chez Arthur, la cabane Les Produits Lamartine aussi. Donc, il y a plusieurs options là, où est-ce que vous pouvez aller chercher des produits puis les manger directement à la maison.
Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a donc des touristes d'amateurs de cabane à sucre qui viennent aussi de l'extérieur, là, on peut dire.
Oui, bien, c'est certain que pendant le printemps, là, c'est un produit qui est très intéressant. Les gens qui viennent découvrir le délicieux sirop d'érable. Donc, effectivement, il y a un petit côté touristique à tout ça là, pour les visites de cabanes à sucre.
On va s'arrêter quelques instants, si vous me permettez, Chani, puis on va aller découvrir d'autres éléments intéressants du côté des cantons d'Est en cette période de l'année. Et là-dessus, nous passons à la musique.
Yo no atraco, yo no robo, no soy malo y sobre todo yo no soy el delincuente que te cuentan. Que no soy tan educado, pa'l catete y pa'l cuadrado, pero aún así te traigo esta propuesta. No te lleves con diabladero, la verdad que con el corazón te quiero. Sin dialectos de finura, aunque me guste el dembow, tú eres mi cura, mi locura.
Et après cette belle pièce musicale qui nous transportait en quelque sorte dans le sud, je vous rappelle, chers auditrices et auditeurs, que vous écoutez en ce moment votre émission Voyage-Voyage en compagnie de votre animateur André Bouchard. Poursuivons cette belle visite des cantons de l'Est en compagnie de Chani Hallé, qui est la responsable, la coordonnatrice des relations de presse. Alors Chani, on sait que c'est le temps également du printemps incessamment. Incidemment, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le ski de printemps, entre autres?
Oui, bien, en fait, nos montagnes travaillent très fort, André, pour avoir de la belle neige. Donc, heureusement qu'on peut en produire cette année avec de la nature qui n'est pas toujours clémente. Donc, effectivement, on essaie de prolonger la saison de ski le plus longtemps possible pour avoir des conditions optimales et que tout le monde ait beaucoup de plaisir. Donc, vous savez, dans les cantons de l'Est, on a 4 stations de ski. Bromont, Sutton, Offord et Alzette. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces quatre stations de ski qui sont situées à environ là, une demi-heure les unes des autres, donc elles sont vraiment très proches. Et les gens qui viennent nous visiter, ben, ça vaut la peine de procurer une carte Let's Go. Ça, c'est une carte avec des billets journaliers et vous pouvez skier dans toutes les montagnes. Donc, c'est quatre belles expériences de ski qui sont différentes les unes des autres. Et en même temps, ben, vous pouvez profiter de tout ce qui est alentour. Donc, on peut penser aux microbrasseries, spas, vignobles, différents villages à découvrir. Donc, on a vraiment une expérience d'après-ski qui est très intéressante. Donc, je vous inviterai à venir faire un tour, justement, ce printemps, ben, pour profiter du bon ski de printemps, puis en même temps, de l'après-ski tant qu'à y être.
Je sais aussi que vous préparez un événement vraiment spécial prochainement ou au cours des prochaines semaines. De quoi s'agit-il concernant comment le côté, le phénomène solaire, si l'on peut dire? De quoi s'agit-il?
Oui, bien, c'est un phénomène à ne pas manquer. C'est le 8 avril prochain. Les cantons de l'Est vont être le théâtre d'un phénomène astronomique vraiment hors du commun. Alors, ça s'appelle une éclipse solaire totale. C'est une expérience unique qui va durer quelques minutes seulement. Et justement, ben, on invite les visiteurs à en profiter. Ben, organiser idéalement un séjour dans la région pour découvrir nos attraits, découvrir les saveurs locales tout en venant assister à cette éclipse totale de soleil.
Et quand on parle d'éclipse totale, pour nos auditeurs qui seraient moins familiers, là, c'est quoi exactement?
C'est que pendant quelques minutes, la Lune va occulter le soleil. Donc, la Lune va se placer entre le soleil et la Terre. Et ce que ça va faire, ben, c'est un spectacle vraiment impressionnant. On va pouvoir admirer la couronne solaire, le ciel crépusculaire, les étoiles en plein jour. Là, dans le fond, André, il va faire noir en plein après-midi. Et faut dire que c'est un phénomène qui va se dérouler dans la toute première réserve internationale de ciel étoilé, une réserve qui fait 5 300 km² autour du mont Mégantic. Donc on est vraiment chanceux là, que ça se passe dans les cantons de l'Est chez nous. On est une des seules régions au Québec à se retrouver entièrement dans la trajectoire de la totalité de l'éclipse. Ça veut dire que les visiteurs qui vont se trouver dans un des nombreux lieux d'observation dans notre région vont pouvoir voir l'éclipse solaire totale pendant plusieurs minutes, comme nulle part ailleurs au Québec.
J'imagine que l'Astrolabe du lac Mégantic va y mettre le paquet dans les circonstances.
Oui, absolument. En fait, du côté de l'Astrolabe du Mont Mégantic, il y a 2500 visiteurs qui vont avoir le privilège de vivre cet événement d'astronomie là, là-bas à l'Astrolabe. Malheureusement, ben, il n'y a plus de billets, c'est déjà tout vendu. Puis il faut savoir qu'il n'y a aucun visiteur qui va pouvoir se rendre au parc national en voiture. Il fallait vraiment avoir réservé son billet sur le site de l'Astrolabe. Malheureusement, il n'y en a plus, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein d'autres lieux d'observation de l'éclipse dans les cantons de l'Est. Donc, si vous vous rendez sur notre site web, cantondelest.com, il y a une section qui est dédiée justement à l'éclipse et vous allez avoir toutes les informations sur les lieux pour l'observer, qu'est-ce qu'une éclipse de soleil, comment prolonger son séjour, comment observer l'éclipse de façon sécuritaire, des hébergements là qui, justement, sont au cœur de la réserve de ciel étoilé. Donc, vraiment pertinent pour ceux qui veulent en apprendre plus sur ce phénomène-là et aussi pour ceux qui veulent planifier un séjour dans les cantons de l'Est pour y assister.
Donc, un beau voyage astral dans les circonstances. Et concernant les séjours, justement, qu'est-ce qu'on peut faire de ce côté-là? Concernant les hébergements et la restauration?
Oui, bien, hébergement, d'abord, faut faire vite, hein, parce qu'il en reste de moins en moins. Dans la région de Mégantic, là, il reste vraiment plus grand-chose. Sherbrooke, il reste presque plus de chambres non plus. Donc, il faut quand même se dépêcher si vous voulez venir faire un séjour dans la région. Si je me trompe pas, dans le coin de Bromont, Grimby, il reste encore des hébergements disponibles. Donc, vous pouvez réserver votre chambre. Nous, on a fait une page justement sur notre site web, comme je vous disais, où est-ce qu'on fait des suggestions d'hébergement, des endroits où est-ce qu'il y a des activités d'organiser et tout ça. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un œil puis de voir de quelle façon vous pouvez prolonger votre séjour dans la région. Parce que oui, il y a l'éclipse, mais une fois qu'on est là, bien, il y a tout plein de choses à voir dans la région, que ce soit nos microbrasseries, nos fromageries, nos vignobles, faire des activités de plein air, aller dans un spa, Bref, il y a vraiment toutes sortes de possibilités.
On répète le site Internet, Chani?
cantondelest.com.
Alors, c'est complet. Alors, on pourra revenir éventuellement sur cette belle région de des cantons de l'Est. Alors, merci beaucoup, Chani Ali, coordonnatrice des relations de presse à Tourisme et Cantons de l'Est. On vous souhaite une excellente fin de saison hivernale et un beau début de printemps. À la prochaine.
Merci beaucoup, André. Au revoir.
Au revoir. Et pour compléter cette émission, bien, un petit voyage en Mauricie, plus précisément entre dans une compétition un peu spéciale, anciens Canadiens et anciens Nordiques au Colisée Vidéotron. Et nous avons obtenu les commentaires de Michel Bergeron, l'ancien instructeur, et également d'un joueur qui avait fait sa marque, Stephen Flynn. D'abord, les impressions du tigre Michel Bergeron.
Ah, j'ai trouvé... Donc, j'étais ému, parce que je revenais dans mes années ici à Trois-Rivières. J'ai dirigé les draveurs pendant 6 ans. Puis, je savais que les gens étaient extraordinaires. C'était un public de hockey qui a été bon pour les draveurs, pour moi. Puis, quand je reviens à Trois-Rivières, bien, c'est toujours les souvenirs qui me reviennent, les championnats qu'on a gagnés. Ça a été une belle journée encore une fois. Puis les gens ont été sympathiques à l'endroit des professionnels. Les joueurs, autant du Canadien que des Nordiques, ont donné le maximum. Ça a été un très bon spectacle.
Justement, on parlait de championnat. On l'a vu, la bannière. C'est la première fois qu'on coachait de ton côté un match avec la bannière.
Oui, absolument. Il y a 2 ans, on levait la bannière pour nos 2 Coupes du Président. Des années 70 quand même, mais ça fait un bon bout de temps, mais c'est toujours des souvenirs qui nous restent, encore une fois. Merci à Trois-Rivières, parce que...
Je pense que pour les Trifluviens aussi, c'était frais dans la mémoire de plusieurs.
Oui, j'ai vu des gens là, qui étaient à l'époque des détenteurs de billets de saison, des draveurs, puis c'est des souvenirs que j'oublierai jamais.
Est-ce que tu as aimé la partie d'hockey cet après-midi, Michel?
Oui, j'ai aimé la partie. Disons que le Canadien était plus jeune que nous. En troisième période, on a manqué de souffle un petit peu. Mais il en demeure pas moins que ça a été un bon spectacle, apprécié des partisans, c'est ça qui est important. Puis, je pense que les gens ont bien aimé le match.
Et tu laissais un beau message aussi cet après-midi à l'issue de cette partie. Alors, qu'est-ce que tu leur as dit à la fin?
Je voulais remercier les amateurs, parce que les amateurs ici à Trois-Rivières ont été derrière notre équipe avec les draveurs pendant de nombreuses années. Puis, aujourd'hui, ben, encore une fois, ils l'ont démontré. Ça a été un élan d'amour entre les anciens partisans des draveurs et ceux d'aujourd'hui.
Alors, beau message. Merci, Michel, de te revoir en même temps. Ce fut un grand plaisir. À la prochaine.
Merci beaucoup.
Et pour compléter, bien, un joueur qui a fait sa marque lors de son passage chez les Nordiques, Stephen Flynn. Alors, bonjour, c'est Flynn. C'est un plaisir de vous revoir après tant d'années. Alors, comment avez-vous trouvé cette partie cet après-midi, ancien nordique et ancien canadien?
Écoute, c'est tout le temps des moments incroyables. Évidemment, il y a beaucoup de nostalgie quand on se rencontre les gars, de remettre le chandail des Nordiques et puis de rencontrer les partisans des Nordiques. On a eu la chance de rencontrer beaucoup de gens avant le match. Je suis sûr qu'on va en avoir en sortant également. Puis, c'est vraiment particulier l'accueil qu'on a eu à Trois-Rivières, Caillot. Autant de monde, autant d'ambiance. C'est des bons souvenirs et c'est très, très apprécié l'accueil des gens.
Y a-t-il un moment de la partie qui t'a marqué particulièrement?
Je vous dirais, moi, c'est le début. Quand on est embarqué, la première mise en jeu, de se voir chandail blanc des Nordiques devant le chandail rouge des Canadiens, on ne s'aimait pas dans le temps, mais il y a quand même une solidarité. Puis c'est agréable de voir nos anciens coéquipiers des Nordiques, puis c'est agréable de voir les anciens joueurs du Canadien également.
Même si on a perdu, on prend bien ça quand même.
Oui, on s'y attendait. Ils ont un alignement pas mal plus jeune que nous autres. Là, les Nordiques, ça fait quand même je l'ai pas compté, là, mais ça fait c'est en 95, ça fait un bon bout de temps qu'on est parti, donc les joueurs, on est vieillissant, puis on le réalise, et puis c'est pour ça qu'on apprécie chaque moment.
Et on revient à Trois-Rivières quand ça donne?
Pardon? Beaucoup d'amis à Trois-Rivières, je passe souvent par ici, j'arrête souvent aussi voir mes amis, c'est une ville que j'apprécie beaucoup.
Steve Flynn, merci beaucoup de cette entrevue. Et justement, pour compléter cette partie, cette entrevue, écoutons une musique, une chanson de l'époque chanté par Richard Adam, qui nous chante Les Nordiques de Québec.
Après saison, hey! On sera là aussi
pour acclamer l'action. Et comptez, je vous l'assure, pour finir les premiers.
Après cette chanson typique du temps des Nordiques, voilà qui termine à peu près cette émission Voyage, Voyage sur les ondes de votre station préférée fidèleauposte.com. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, vous avez des commentaires ou suggestions. Il me fera plaisir de les recevoir au courriel suivant andrebouchard84@commercial.gmail.com. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite une bonne semaine, remplie de belles découvertes ici et là, en espérant que tout aille pour le mieux dans tous vos projets. Là-dessus, à la prochaine!